Voilà, d'habitude, ces derniers temps, j'avais toujours des images avec moi. Ben là, vous n'aurez qu'une image. Vous n'aurez qu'une image, c'est celle-ci. Une seule image. L'image de la croix. Elle est là aussi. Et voilà, je donne cette parole centrale pour ce message, ce matin. C'est dans Galates. Galates 6, 14. Merci Jacques. En ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul trouve sa fierté dans la croix. Il a une haute idée de ce qui indiffère beaucoup de gens. Des croix, il y en a partout. Et je crois que le Seigneur doit être triste de voir que plein de gens passent devant ces croix sans réaliser ce qu'il y a derrière. Hein? Et Paul, il trouve sa fierté dans cette croix. Paul, il est coutumier de ce genre d'expression quand il dit ailleurs « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Jésus est tout pour Paul. Comme cette femme qu'on a entendue à la télévision sur France 2 qui vient de Syrie ou d'Iran ou d'Irak, je ne sais pas exactement, ça avait touché Robert et il nous en avait parlé, on l'a revue. Et cette femme sur France 2, en une heure de grande écoute, disait « Jésus est tout pour moi ». À quelqu'un qui s'exprime comme ça, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Et ici, dans cette lettre aux Galates, donc Paul est plus précis. Hein. Sa fierté est en Jésus, mais aussi dans la croix. La croix de Jésus, si vous regardez, toujours au centre de sa parole, de sa prédication. Dans toutes ses lettres, Paul est l'auteur de cette fameuse déclaration « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Il met toute sa fierté dans la croix de Jésus. Chers amis, est-ce qu'il en est de même pour nous? Est-ce qu'on peut dire, je mets toute ma fierté, je ne la mets pas ailleurs que dans la croix? Sachons reconnaître qu'il n'y a pas une œuvre profonde du Saint-Esprit sans une compréhension de l'œuvre à la croix, du mystère de la croix. Un évangile sans la croix ne serait plus le véritable évangile. Hein. Alors ce matin, je veux qu'on s'arrête sur cette déclaration de Paul. Je mets toute ma fierté dans la croix pour que nous soyons, c'est ma prière, renouvelés dans la vision de la puissance de la croix du Christ. Galates 6, hein, toujours, hein, ce verset, je mets ma fierté, c'est Galates 6, 14. Ouais. Galates 6, 14. On méditait jeudi matin, quelques-uns, sur 1 Thessaloniciens 1, où Paul parle de sa prédication, qu'elle n'était pas seulement en parole, mais avec une démonstration de la puissance de Dieu. Et si la croix est au centre de notre prédication, de notre témoignage, et je le dirai après, de notre vie, alors vraiment, elle peut être une démonstration de sa puissance. Je rappelle une autre déclaration de Paul aussi, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et pour nous qui sommes sauvés, confirmation, elle est une puissance de Dieu. Mais quelle contradiction, hein ? Folie pour les uns, puissance de Dieu pour les autres. Et les deux brigands crucifié à côté de Jésus symbolise cette contradiction. Rappelez-vous la scène. Les deux brigands symbolisent cette contradiction. Il y en a un qui dit, mais enfin, c'est incroyable, tu te dis, le Fils de Dieu, t'as guéri des malades, t'as ressuscité des morts et tu restes sur ta croix. Ouais. Oui, il n'était pas encore ressuscité, mais il a ressuscité des morts, oui. Il a quand même ressuscité Lazare. Oui, oui. Et donc, voilà, c'est une folie pour lui, c'était absurde. Je me souviens d'un vendredi saint, il y a quelques années, où Dieu m'a montré ces deux brigands qu'ils avaient tous les deux une vision différente du royaume de Dieu. Complètement différente. Et l'autre qui dit, souviens-toi de moi, nous c'est injuste, c'est mérité ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous avez réfléchi déjà à cette méditation, à cette déclaration, pardon, de ce brigand. C'est incroyable. Jésus est sur le point d'expirer. Jésus va mourir. Et il fait une déclaration sur son futur règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est une déclaration remarquable. On ne sait pas d'où vient ce brigand. On ne sait même pas s'il a pu voir Jésus avant d'être crucifié. Et voilà que ce brigand a cette déclaration, c'est peut-être un assassin, hein, cette déclaration remarquable. Il n'est pas dérouté par le sort que subit le roi des Juifs. Il est sûr qu'il va venir régner. Incroyable! C'est une déclaration de foi sur le règne du Christ et prononcée au moment où Christ va expirer, pas de la part des religieux. Ils sont tous... ils ont de la haine vis-à-vis de Jésus. Ça ne vient même pas d'un disciple. Ils sont tous partis, sauf Jean et sa mère, qui sont silencieux. Cette déclaration de foi vient d'un assassin. Incroyable. Incroyable. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que ce brigand a passé quelques heures avec Jésus. Il a vu l'agonie de Jésus. Il a vu comment il a souffert dignement. Il a vu qu'il a donné une déclaration pour que Jean prenne soin de sa mère. Il l'a entendu dire, pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Il ne faut pas oublier ça. Et à travers cette déclaration, on voit toute l'étendue de la grâce de Dieu qui accueille dans son royaume celui qui est le plus éloigné. Est-ce qu'on comprend un peu mieux pourquoi alors Paul a cette déclaration ? Je ne mettrai ma fierté ailleurs que dans la croix du Christ. La puissance de la croix du Christ. C'est le thème de ce message, que Dieu nous renouvelle dans la puissance de la croix du Christ. Creusons un tout petit peu, hein, pour comprendre ce qui a amené Paul à ce constat. Il faut lire un peu la suite de Galates, après les versets 14, 15, 16. Paul, il dit ça. Il dit, par elle, par la croix, le monde du péché a été à jamais crucifié pour moi. Cette même croix fait de moi un crucifié pour le monde. Juif ou non juif, cela ne joue plus aucun rôle. Être circoncis, cela ne sert de rien. Être protestant ou être catholique, non, ça c'est pas dans la Bible, mais je le rajoute, ça sert à rien. Être baptisé ou pas être baptisé à la limite, bon. Enfin, voilà. Je ne décourage pas ceux qui veulent se faire baptiser. Ne pas être circoncis ne nous désavantage pas. Une seule chose importe, c'est d'être un homme nouveau. C'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est la nouvelle créature que Dieu crée en nous. Et voilà qu'une fenêtre s'ouvre. sur cette dernière parole, donc, où Paul parle de sa propre crucifixion, alors qu'il n'a pas été crucifié sur une croix, mais c'est spirituellement, il s'est identifié à Jésus. Et il est une nouvelle créature. Ce qui importe, c'est la nouvelle créature que Dieu crée. Voilà le motif de fierté de Paul. La croix indissociable, inséparable de la résurrection, a fait de lui une nouvelle créature, un homme nouveau, parce que Paul a mis sa foi en lui, s'est identifié à lui. Mais c'est pareil pour nous. Est-ce qu'on a pris la dimension de cette transformation qu'opère la croix? Est-ce qu'on n'a pas tendance quelquefois à l'oublier? Est-ce qu'on a pris la dimension de cet homme nouveau, de cette femme nouvelle recréée en lui? Est-ce qu'on a pris la dimension, la mesure de la profusion de grâce que Dieu a déversée sur nous pour qu'on soit le temple de l'Esprit de Dieu, pour qu'on soit appelé même enfant de Dieu? Tu le disais dans ta prière, Pascal. Je me souviens, j'ai témoigné à Alpha il n'y a pas longtemps de ma conversion. Avant ma conversion, je ne m'aimais pas. Je voulais être quelqu'un d'autre. Et quand j'ai fait l'union avec Jésus, quelle libération! Je suis devenu un homme nouveau, connu, aimé de Dieu. J'ai trouvé mon identité en Christ. Je suis devenu un nouvel homme. Tout cela grâce à la croix de Jésus. On doit témoigner de cela. On doit témoigner de la puissance de la croix de Jésus, qui fait des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Est-ce qu'on réalise que beaucoup de gens, plus qu'on ne le croit, autour de nous, désespèrent d'eux-mêmes? Vous le croyez? Plus qu'on ne le pense. Des gens désespèrent d'eux-mêmes et aspirent au changement. Nous avons le message dont ils ont besoin. Nous avons l'espérance que chacun, chacune peut devenir un homme nouveau, une femme nouvelle, réconciliée avec Dieu, réconciliée avec lui-même, avec les autres, autant que cela dépende, bien sûr, des autres, s'ils veulent se réconcilier aussi. Capable d'être victorieux du péché, capable d'aimer, de porter du fruit, à la gloire de Dieu. Tout ça, grâce à la croix de Jésus. On est appelé à manifester la puissance de la croix du Christ par nos paroles, prédications ou témoignages, mais aussi par notre vie qui répond à l'appel de porter sa croix chaque jour. On ne peut pas dissocier les deux choses. Nous sommes crucifiés avec Christ. Et Jésus, dans l'Évangile, nous rappelle cette invitation qui souvent nous fait un peu grincer les dents. Celle de porter notre croix. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. On a chanté, on vient de chanter. Je te suis, Jésus, mais... Je te suis. Elle n'est pas facile à entendre, cette parole, parce qu'elle a souvent une connotation négative. Mais en préparant ce message, je sentais à la fois que le Seigneur ne voulait pas que je contourne cette parole, c'est-à-dire que je l'évite, que j'évite de la citer, mais je sentais aussi qu'il voulait nous libérer en quelque sorte d'être effrayés par cette parole. La croix doit rester bonne nouvelle. Sujet de fierté, même si cet homme nouveau que je suis, cette femme nouvelle, est appelée à porter sa croix chaque jour. Le Seigneur veut nous renouveler dans la vision de la puissance de la croix du Christ, mais aussi dans la vision de la puissance d'une vie crucifiée, c'est-à-dire la nôtre. Alors, que signifie porter sa croix? Je ne peux pas m'étendre, j'en aurai peut-être trop longtemps, mais voilà, je vais essayer de donner quelques pistes. Avant de définir, avec modestie, j'essaye, je voudrais dire ce que ce n'est pas porter sa croix, parce que dans l'expression populaire, porter sa croix a toute autre signification. Pour le commun des mortels, porter sa croix, c'est supporter une épreuve difficile qu'on ne peut pas éviter. Ainsi, certains utilisent cette expression pour parler de parents qui ont un enfant très handicapé ou très malade, très addict, enfin, ou simplement pour parler de gens qui ont à supporter une maladie très dure, incurable. D'accord ? Ça peut être toute forme d'épreuve. Et cette expression, cette compréhension nous autoriserait alors à traduire les paroles du Christ. Souffrez, alors vous serez mes disciples. C'est pas ça. Comme si la souffrance était un but. Non. La souffrance peut être une conséquence, bien sûr, de la vie de disciple. Conséquence qu'il me faut accepter, mais n'est pas un but en soi. Alors, que signifie porter sa croix ? Alors, j'ai regardé dans ma Bible online, j'aime bien regarder là, puis voilà. Dans Matthieu 10, 38, le mot qui est traduit par « prendre », sa croix, en grec, et le mot lambano, qui veut dire ramasser, se saisir et emporter. Prendre, sans notion de violence, déplacer, emporter, s'approprier, et ça va jusqu'à, c'est intéressant, épouser. Épouser. Être investi. Et dans Matthieu 16, 24, il y a un autre mot qui est traduit par le verbe charger, celui qui se charge. Et c'est presque pareil. C'est aussi élever, soulever, transporter, porter, supporter, transporter ce qui a été soulevé, s'approprier ce qui a été pris. Alors, à la lumière de ces définitions, on comprend mieux l'expression. Si mon expérience de la croix n'est l'expérience que d'un jour, c'est comme si j'ai commencé à prendre. Et puis voilà. Je reste, je ne vais pas plus loin. C'est comme si j'ai commencé à soulever, mais je n'ai pas emporté. C'est incomplet. Si je dis, ah oui, à telle date, j'ai fait l'union avec Christ, j'ai renoncé à moi-même, j'ai changé d'un coup, à telle date, oui, c'est très important, c'est clair, c'est un commencement nécessaire, mais alors c'est incomplet. Si je m'arrête uniquement à une fois, et si je ne saisis pas l'appel que le Christ m'adresse à porter ma croix chaque jour. À porter la croix chaque jour. Porter sa croix, c'est un abandon simplement de sa vie journellement répétée. C'est une mort à soi-même, c'est-à-dire décider chaque jour, chaque minute, de lâcher le gouvernail de sa vie et de le donner et de le redonner sans cesse à Jésus, celui, le Christ qui habite en nous, pour qu'il nous conduise. D'ailleurs, souvent, il y a l'expression qui renonce à soi-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a ces trois choses. Jésus cite le renoncement comme collant à l'appel de porter sa croix. Et quelqu'un écrit ceci, c'est important, de ne pas mal comprendre le renoncement à soi-même. Ce n'est pas une dépersonnalisation, mais c'est la construction de soi-même selon un mode nouveau. Ce n'est pas l'abdication de soi, mais l'évacuation de tout ce qui empêche la recréation de notre personne par le Saint-Esprit. D'accord ? Ce n'est pas la dépersonnalisation. Renoncer à soi, c'est abandonner sa prétention à l'indépendance. Être disciple, c'est renoncer à maîtriser seul son existence pour entrer dans une vie qui se donne au Christ par amour, au risque, comme Jésus, d'y laisser sa vie. Le disciple fait passer sa foi avant son amour propre. Il est donc porter sa croix précédée du renoncement à soi-même, mais suivi de l'invitation à suivre Jésus, c'est-à-dire à passer derrière lui, selon l'appel de Dieu. Alors bien sûr, facile à dire, moins facile à faire, hein, je reconnais. Alors j'approche de la conclusion. J'aimerais juste citer, le Seigneur m'a montré de vous citer trois paroles des Écritures, dont deux du Christ, et la troisième en rapport avec le Christ, qui peuvent nous aider à bien vivre cet appel. Que ce ne soit pas lourd à porter sa croix. Oh. Et après, je citerai, certains les ont déjà entendus, mais je crois que plusieurs ne l'ont pas entendu, deux témoignages. Je termine avec ça. D'accord ? Trois paroles du Christ, deux du Christ et une en rapport avec lui, qui peuvent m'aider à ne pas être effrayé par cet appel à porter la croix. Dieu m'a parlé ces derniers temps à travers ça. La première, elle est un peu étonnante, c'est dans Matthieu 6, 34. C'est dans ce fameux chapitre où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous, là, ne vous inquiétez pas. » Et à la fin, il dit « À chaque jour suffit sa peine. » Et ça m'aide. Ça m'aide. Le contexte, c'est l'inquiétude pour l'avenir quant à notre nourriture, notre capacité à survivre. Mais cela s'applique à toute forme d'inquiétude, y compris celle de ne pas réussir à porter notre croix demain, après-demain, dans 5 ans, si jamais les temps étaient plus durs. Est-ce que je vais réussir à porter ma croix? Est-ce que je vais réussir à supporter la persécution? Le Christ nous dit, le Christ te dit, à chaque jour suffit sa peine. Un jour à la fois. Tu dois porter ta croix chaque jour, mais le porte-la un jour à la fois. Porte pas déjà pour demain, pour après-demain. Deuxième passage, deuxième parole du Christ qu'on cite souvent pour des inconvertis, mais elle est aussi pour les convertis. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il est parlé de joug à porter, d'un fardeau à porter. Difficile de ne pas penser à la croix à porter. Je crois que Jésus devait penser à cette croix, à cet appel, à cette invitation. Il devait penser à notre crainte, à nos craintes. Et je crois que Jésus nous dit « N'ayez pas peur ». Ça, c'est une deuxième parole que je rajoute. « N'ayez pas peur. Je suis doux et humble de cœur, plein de compassion, de tendresse. » Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus aisé de marcher à sa suite. D'autant plus, si je m'efforce de tout faire par amour pour lui, c'est beaucoup plus léger. Pensez à une chose que vous n'avez pas envie de faire dans la journée, du tout, du tout. Ben dites-le, je vais le faire pour Jésus. Je vais le faire pour mon Sauveur. C'est beaucoup plus facile. C'est plus facile à porter. Je vais le faire pour mon Sauveur. Je vais le faire par amour pour Jésus. Ah. Ouais. Troisième passage, troisième parole. Hébreux 12. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit ça. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » En vue de la joie, il a souffert la croix. Ah, en vue. Ça parle du regard. Déjà avant, regardez à Jésus, qui lui, regardait à la joie. Regardez à la joie, l'invisible, la joie qui lui était réservée. Notre regard. Où nous regardons? Dans le groupe Parcours Alpha, vendredi, il y a quelqu'un qui n'est pas d'ici, une catholique, Valérie, qui a dit, vous savez, dans certains pays, je ne sais plus de quel pays elle parlait, on ne se salue pas en disant « comment ça va ?» mais « comment va ton regard ?» « Comment va ton regard ?» Et ça m'a parlé par rapport à ça. « Comment va ton regard ?» Où tu regardes? le Seigneur nous invite à regarder. Les patriarches, les prophètes, il est dit, il est rendu leur témoignage que Abraham attendait une cité ailleurs qui vient d'en haut, dont Dieu est l'architecte. Les prophètes regardaient plus loin. Les prophètes le faisaient. Et Paul, dans ses écrits, nous invite à regarder aux choses invisibles. Ah, ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Alors, je termine avec deux témoignages. Donc, certains, pour ceux qui le connaissent, voilà, je ne sais rien, genre, mais je crois que plusieurs ne le connaissent pas.
Dans la prière de Martin Luther King.
Ah, Martin Luther King.
Ouais. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, et se tourner vers Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne pouvons faire que louer d'une seule bouche et te rendre grâce.
Amen. Regardez à Jésus. Voilà. Merci, Odette. Et donc, j'ai lu il y a quelque temps le récit, il y a bien longtemps, même il y a au moins une dizaine d'années, de la conversion de tout un village en Algérie en 1983. Une nuit de 1983, dans un village d'Algérie, chaque habitant du village a fait une rencontre personnelle et surnaturelle avec Jésus. Une combinaison de rêves, des manifestations d'anges. Chacun de ces musulmans a une rencontre surnaturelle avec Jésus. Alors le lendemain, ils se sont parlé les uns aux autres. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Rendez compte, 450 habitants d'un village. Et dans les semaines qui ont suivi, leur conclusion les a amenés à la conversion. Presque tout le village, pratiquement tout le village, s'est converti à Jésus. Ce qui, à l'époque, en 1983, représentait un accroissement de 18% de l'Église nationale algérienne. À l'époque. Des travailleurs missionnaires ont enquêté. Ils ont dit, mais comment ça se fait que c'est arrivé à cet endroit ? Et ils ont enquêté pour découvrir les raisons. Ils ont prié certainement à ce sujet. Les raisons de cette visitation souveraine. Ils avaient du mal à ne pas voir aucune implication avec ce développement spectaculaire. Et ils ont tombé sur une information stupéfiante. Ils étaient à l'endroit même où en juin 1315, le missionnaire espagnol Raymond Lull, originaire de Majorque, avait été lapidé par des musulmans, déchaîné après qu'il a prêché sur la place du marché. En tombant dans le sol ce jour d'été au XIVe siècle, la semence de la vie livrée, je dirais de la vie crucifiée, notre vie crucifiée peut aller au martyr, mais on n'a pas à le chercher, hein. On n'a pas, elle n'ira peut-être pas au martyr, mais elle peut. D'accord ? A été ensuite arrosée de larmes, certainement, d'intercesseurs. Et elle a porté son fruit. La vie crucifiée traverse, la puissance d'une vie crucifiée traverse les siècles. C'est étonnant, traverse les siècles. Elle est appelée à porter du fruit au-delà même de notre mort. Mais elle est appelée à porter du fruit dès maintenant aussi. Il y a plusieurs années, 20 ans, je travaillais encore dans une école. Et j'étais à l'époque responsable de surveillants. Et donc j'ai fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Pascal, qui semblait chercher la vérité, mais il allait dans une mauvaise direction. J'appris qu'il faisait des expériences spirituelles régulières, mais vraiment du mauvais côté, dangereuses. Notamment la projection astrale, sortir de son corps. Alors je lui ai dit, là je l'ai vu comme une cible. J'ai dit, Seigneur, mal m'en a pris. Enfin, non, je l'ai bien fait, je crois, vous allez voir après. Mais je m'en suis pris plein la figure. Je lui ai souvent témoigné de l'évangile. Mais mes efforts semblaient totalement vains. Ses réactions à mon égard étaient très négatives. Moqueries, insultes. C'était le prix de mon témoignage. Mais écoutez la suite. J'échouais donc dans ma tentative de le convaincre. J'avais presque mis, je fais un jeu de mots là, une croix sur lui. Ce qu'il ne faut jamais faire. Quand un matin, je prenais le train, je voyageais avec lui. On prenait le train ensemble. Il ne m'a rien dit dans le train. Mais une fois descendu du train, descendu du train, il m'a dit, Jean-Luc, je ne suis plus sur une même planète. Ah bon, oui, qu'est-ce qui se passe? Et il me racontait la nuit qu'il venait de passer. Il était pris cette nuit-là d'angoisse très forte. D'autant plus qu'il y avait toutes ces pratiques. Il y avait aussi des manifestations dans sa maison. Il avait peur. Et poussé par l'esprit au milieu de la nuit, il s'est agenouillé et il appelait Dieu au secours. Il a pris un évangile, il a ouvert l'évangile, juste à la page de... Il est tombé sur la page de l'enfant prodigue, du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue. Et il s'est identifié au fils prodigue et a demandé pardon à Dieu pour tous ses péchés. Toutes ces pratiques dangereuses, il a accepté Jésus dans sa vie. Et tout de suite, la paix est venue. Tout de suite. Ce garçon insaisissable, éloigné, je dirais le plus éloigné, comme ce brigand, rappelez-vous, sur la croix, a été saisi par Dieu. Et aujourd'hui, encore 20 ans après, il est animateur pastoral dans une école. Voyez la puissance de la croix du Christ. La puissance de la croix du Christ. Voilà. Je vous redis cette parole. En ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix du Christ. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier peut-être juste. Voilà, Seigneur, on a été exhortés dimanche dernier, selon Éphésiens, à prier les uns pour les autres, à demander l'Esprit Saint. Un esprit de révélation et aussi cette illumination intérieure, je te demande Seigneur, un esprit de révélation pour nous tous. Que la gloire de la croix du Christ, même si elle nous a déjà été révélée, nous soit révélée avec plus de clarté, avec plus de lumière, et qu'ainsi, comme Paul, nous mettions notre fierté dans la croix du Christ. Convaincu que ce message est un message unique qui porte l'espérance de voir encore aujourd'hui la transformation d'hommes et de femmes nouveaux. Merci Seigneur pour l'honneur d'être porteur de ce message. Folie pour les incrédules, puissance de Dieu pour ceux qui croient. Et nous attendons à voir des transformations, mais nous attendons aussi à continuer de vivre nous-mêmes cette transformation en nous, en portant la croix jour après jour, avec persévérance, renonçant à nous-mêmes, mettant nos pas dans les pas de Jésus, le Fils de Dieu, doux et humble de cœur, qui nous apporte le vrai repos. Nous ne nous inquiétons pas pour l'avenir, nous entendons ta voix qui nous dit « N'ayez pas peur, chaque jour suffit sa peine ». Nous fixons les yeux sur toi, Jésus, et sur la joie qui nous attend, cette joie de vivre l'éternité en ta présence, au milieu de ton peuple. Amen.